c'est quand même la rédaction de la charte. Tout ce que nous allons vous demander de participer avec nous, c'est de pouvoir élaborer et défiler la charte et d'avoir vraiment l'outil qui va nous permettre de faire vivre le parc. Alors, juste en deux mots en présentation, aujourd'hui nous sommes sur le canton de Roquestéron. Le parc naturel se situe, on peut le voir différemment, il peut se situer sur les trois trames bleues, c'est-à-dire la Siagne, le Loup et l'Estéron. Nous sommes sur un peu moins de 100 000 hectares, 99 000 hectares. On a tous des enjeux à peu près similaires, mais on est un petit peu différents aussi. Et vous verrez dans la présentation, vous risquez de ne pas vous y retrouver, peut-être dans certains points ou autres, mais ce n'est pas grave. On est sur un périmètre très très large dans le cadre du parc, et certains enjeux concernent certaines zones et d'autres certaines zones. Le principal, c'est que vous retrouviez ce dont vous voudriez voir émerger dans la charte. C'est ça le principal pour vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous dites, nous, dans notre canton, on a l'intérêt prioritaire sur lequel on voudrait travailler et pouvoir évoluer, et nous voudrions qu'il apparaisse dans la charte. Voilà. Ça, c'est l'intérêt majeur, et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de travailler avec vous. C'est hyper important, parce que les acteurs de ce parc, ça sera vous. On est, souvent quand on parle du parc, on est dans une logique de protection. C'est vrai qu'on est à 50% dans la logique de protection, mais on est dans une logique surtout de dynamisation. C'est-à-dire que si demain on veut voir émerger des agriculteurs, si on veut voir émerger des personnes qui vont travailler dans d'autres cadres, il va falloir à un moment donné détecter les zones dans les communes et dans les cantons qui vont être propices à ça. Et c'est ça la vie du parc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de protéger, à un moment donné, ça veut dire quoi protéger? Ça veut dire, est-ce que c'est de retrouver et de reconstruire ce qui existait et de le garder comme un musée? Non. Protéger, c'est de dire, retrouvons ce qui existait et essayons de le refaire vivre. C'est-à-dire, l'exemple type, après on démarre, et l'exemple type, c'était les restants. Vous pouvez apparaître à un moment donné, reconstruire les restants. On ne va pas reconstruire les restantes sur 99 000 hectares. À un moment donné, on va avoir une vraie logique de reconstruction de restantes dans la mesure où sur la restante, il va y avoir un agriculteur qui va y travailler. C'est ça le but du jeu. C'est-à-dire que si chacun d'entre vous avait retrouvé un intérêt de vie dans ce parc, à un moment donné, nous vous aiderons à structurer la zone qui vous intéresse pour pouvoir y travailler. C'est ça le but du jeu. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, on dit, rassurez-vous, les chasseurs, les pêcheurs, parce que chacun doit y retrouver son intérêt, et chacun doit pouvoir vivre d'une façon harmonieuse dans ce parc. Et c'est une... Au contraire d'un parc national, on va dire, qui était là vraiment pour une protection maximale, nous sommes là pour une harmonisation de la vie dans le parc qui sera optimale. C'est ça le but du jeu. Voilà, donc je crois que Muriel, on peut attaquer. Alors vas-y, j'ai le privilège de vous le présenter aujourd'hui. Je devais le présenter dans ma vallée qui est la vallée du Loup. Monter l'image maximum. Attendez, d'accord. Bon, j'avais le privilège. J'ai failli avoir le privilège de le présenter dans la vallée du Loup, mais je n'ai pas pu pour des raisons personnelles. Et je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui. Ça va bien ? Ouais. Donc on va le lire ensemble, parce que je sais bien que tout le monde sait lire, hein, mais simplement quand on le lit tranquille comme le détail, on le comprend mieux. Donc vous voyez, le sommaire est en 5 points. 1. Projet du PNR. 2. Qu'est-ce qu'un parc naturel régional? Rappel des critères nationaux d'éligibilité des parcs naturels régionaux et principaux enjeux sur le territoire des Préalpes d'Azur et présentation des premiers résultats de l'enquête des socioprofessionnels que nous avions convié il y a quelques temps. Puis la suite de la démarche et le calendrier des projets. Donc, premier point, le projet du parc naturel. Alors, c'est un projet qui a été initié en 1992 avec la participation active de M. André Ascheri. Il regroupe 49 communes. Il comprend une démarche de création, des étapes de concertation des acteurs, des élus, des socioprofessionnels, des habitants, pour aboutir à la conception d'un projet de territoire partagé et maîtrisé au sein de la charte. Voilà. Donc, C'est vraiment la mise en place de la charte qui va être notre fil rouge, je dirais, pour pouvoir évoluer un petit peu plus tard. Donc une démarche intégrant l'information du grand public sur le projet PNR. Donc le 6 septembre 2003, il y a eu une première réunion d'information sur laquelle 300 personnes s'étaient réunies. Le 14 février 2004, il y a eu 260 personnes qui assistaient à la présentation d'un pré-diagnostic de l'étude de faisabilité. Le 15 mai 2004, la restitution de l'étude de faisabilité. Il y a eu une démarche de sensibilisation des élus à la culture du parc naturel. Des voyages d'études dans le parc naturel du Haut-Languedoc, rencontre avec des responsables du parc naturel du Queyras, réunion de formation et d'information. Il y a eu un travail de mobilisation des acteurs du territoire et des ateliers sur les ressources et l'identité et sur le projet. Il y a eu un voyage d'études des agriculteurs des cantons de Saint-Thomas et de Courcecoul sur le parc naturel du Volcan d'Auvergne. Création d'associations des agriculteurs du parc naturel régional des Préalpes d'Azur et diverses réunions d'information des parcs. Vous voyez déjà, rien que le fait d'être sur un parc naturel de préfiguration, il y a déjà la création d'une association des agriculteurs qui n'existait pas. Et déjà, on sent qu'il y a un pré-regroupement pour pouvoir savoir comment on va s'organiser nos agriculteurs au sein d'un parc. Donc aujourd'hui, les syndicats mixtes sont dans sa phase d'élaboration de la charte. Donc, nous sommes à la 8e réunion, c'est la vôtre. Nous aurons à Grasse, par l'année congrès, le 13 mars 2009, vous êtes tous conviés à un forum territorial sur lequel nous allons faire le bilan des réunions cantonales. Et nous allons commencer les premières réunions, commissions thématiques, que nous verrons un petit peu plus tard. Ce sont quatre commissions sur lesquelles nous allons demander à tous, on les appelle les sachants, hein, toutes les personnes qui sont compétentes dans leur domaine, de venir avec nous et de nous aider à structurer les différentes thématiques que nous envisageons de mettre en valeur. Et fin 2009, avis intermédiaire du dépôt du projet de charte, c'est-à-dire fin 2009, il faudra que nous ayons structuré au maximum notre projet pour pouvoir le présenter. Donc, qu'est-ce qu'un parc naturel régional? Donc, il a cinq missions principales. Donc, protéger le patrimoine à travers le gestion adaptée des milieux naturels et des paysages. Alors, le mot protéger veut dire... c'est surtout la gestion adaptée qui est importante. Hein, c'est-à-dire le protéger, c'est-à-dire que ce sont les acteurs en travaillant sur le parc qui vont protéger. C'est pas simplement nous-mêmes qui allons, commune par commune, débroussailler les coins et jouer les garde-fous. Hein. Protéger, c'est vraiment les acteurs qui vont occuper le territoire et le protéger en l'occupant. Contribuer donc à l'aménagement du territoire, valorisation des restants, l'archéologie, patrimoine bâti, donc redécouvrir tout ce qui est caché aujourd'hui. Contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de vie. Assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public. On s'aperçoit surtout que dans nos coins, ceux qui viennent volontiers le week-end s'ébattre dans nos régions, involontairement, ils ne nous respectent pas. Parce qu'involontairement, ils n'ont pas la culture de la protection, ils n'ont pas acquis cette culture qui nous tient à cœur, c'est-à-dire qu'avant tout, vivre chez nous, c'est avant tout nous respecter. Et nous respecter, c'est en protégeant les sites. Réaliser les institutions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités et contribuer à des programmes de recherche. Alors, la charte d'un parc naturel implique-t-elle des contraintes? Alors, la charte se situe entre le contractuel et le réglementaire. Elle n'a pas de pouvoir réglementaire du parc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ce qui est réglementaire au-dessus du parc, que ce soit les plans locaux d'urbanisme, les schémas de cohérence territoriale et autres, sont eux vraiment les pouvoirs réglementaires. Cependant, le parc, aujourd'hui, on sera obligé de tenir compte du parc dans le cadre de nos différents documents. Les documents ne peuvent pas être incompatibles à la logique de gestion du parc. Et vice versa. Réglementation de la publicité en zone d'agglomération au niveau des panneaux de la publicité restreinte et définition des voies ouvertes à la circulation des véhicules motorisés. Aujourd'hui, effectivement, on est dans un cadre réglementé, mais à travers le parc, on peut aussi peux faire faire à un moment donné pour être intégré dans le règlement d'urbanisme. Comment est composé le syndicat mixte du parc naturel régional des Perles d'Azur? D'abord, il y a l'adhésion de la région, du centre parc régional, il y a l'adhésion du conseil général des Alpes-Maritimes, adhésion des communes, et adhésion des communautés de communes et communautés d'agglomération concernées par le règlement. Alors, quand on dit ça aussi, faut savoir que c'est pas parti. Il suffit qu'il y ait une commune qui fasse partie d'une communauté d'agglomération pour que la communauté d'agglomération participe à l'élaboration de la charte du parc. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on intègre complètement les communautés d'agglomération. Si il y a une commune de la Casa ou de la Carca, ça ne veut pas dire qu'on va intégrer tous dans le parc. Hein? Voilà. Mais par contre, ils participent et ils nous aident financièrement. Fonctionnement du parc syndicaliste, participation statutaire des membres au fonctionnement du parc. Donc le conseil régional, c'est 50% du budget. Le conseil général, c'est 35% du budget. Les EPCI, c'est-à-dire les communautés d'agglomération de communes qui sont de l'ordre de 6 aujourd'hui, c'est 5% du budget. Et les 47 communes adhérentes sur Terre-Neuve, 10% du budget. En cours d'adhésion aujourd'hui, nous avons deux communes qui avaient demandé un petit peu à réfléchir précédemment. Les municipales étant passées par là, les maires ont voulu adhérer, participer à cet objectif. Donc aujourd'hui, nous avons deux communes qui travaillent avec nous, ce sont les communes de Jolière et du Barcelone. Autre financement, action opérationnelle des programmes, l'Europe, l'État, la région, les contrats du parc, leader aussi. Voilà. Alors, de quelles ressources humaines dispose le parc naturel? D'abord, une équipe technique pluridisciplinaire, augmentation du personnel en fonction des projets, effectivement. À un moment donné, le parc aura besoin de personnel si vraiment le parc est dynamique et s'il a vraiment des projets derrière. Si le parc est stagnant, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à démontrer qu'on a un enjeu important, effectivement, le personnel sera resté en se contentant en exagérant tout ce qu'il fait. Mais si on avait vraiment un véritable dynamisme dans différents domaines, on se donnera les moyens d'avoir du personnel, des chargés de mission, chargés de nous aider à structurer ça. Voilà. Et une possibilité de personnel partagé avec les partenaires, consulaires ou agglomérations, effectivement, c'est que les communautés d'agglomération, la chambre de commerce d'industrie ou autres, les communautés de communes, ont la possibilité de mettre à disposition du personnel pour nous aider à structurer notre parc. Alors, quels sont les effets de la création du parc naturel régional? Donc, les exemples de mission, c'est en matière de développement urbain, en matière agricole, et en matière de développement économique. Donc, quand on parle, une seconde, quand on parle d'urbain, on entend, en matière de développement urbain, ça veut dire que, comme on nous a dit, le parc n'a pas de règlement, n'est pas opposable, je dirais, à nos documents, c'est-à-dire que c'est votre plan d'occupation du sol ou plan local d'urbanisme qui prévaut, et à partir de là, mais par contre, on pourra aider les communes dans le cadre du parc, à prendre conscience de certains enjeux pour que vos documents de développement urbain puissent être harmonieux et en cohérence avec le parc et en même temps avec l'ensemble de la logique des communes adhérentes. Exemple en matière de développement urbain, donc appui technique, c'est ce que je vous disais, appui technique aux communes dans l'élaboration de la révision des documents d'urbanisme, schéma de cohérence territoriale, plan local. Schéma de cohérence territoriale, on en parle comme des sachants. C'est simplement le poste des communes élargi à l'agglomération. C'est un grand poste, pour simplifier. Ou la carte communale, pour ceux qui n'ont pas de plan local urbanisme ou de plan d'occupation des sols. Appui au montage de projets d'urbanisme opérationnel. Ça veut dire que tout simplement, quand une commune envisage de structurer quelque chose dans son village, on pourra venir en appui pour l'aider à le structurer. Conseil architectural sur les opérations de restauration et de réhabilitation, là aussi, certaines communes ont la chance d'avoir des architectes des bâtiments de France, donc d'autres ne l'ont pas, mais il y a les CIAUE, il y aura aussi donc le parc qui sera en appui sur certains projets. Action de requalification des villages, centres-bourgs, zones d'activité. et soutient les démarches qualitatives sur les logements aidés. Logements aidés, là aussi, on a drôlement évolué dans la perception du logement aidé. Hein. À l'époque, on imaginait le HLM de 10 étages. Aujourd'hui, on sait qu'un logement aidé, c'est aussi loger des gens de nos propres populations dans nos villages dans des conditions optimales. Quels sont les effets de la création d'un PNR ? Exemple en matière agricole. Concertation avec les organisations professionnelles. Agricole sur l'évolution, alors sur l'évolution de pratiques culturelles en faveur de l'environnement ou biodiversité et paysage. Préservation du foncier agricole dans les documents d'urbanisme, donc d'urbanisme des communes. Études sur le foncier agricole stratégique, valeur agronomique, équilibre à préserver. Donc là aussi, préservation du foncier agricole, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas réfléchir au niveau d'une commune. Une commune, son potentiel agricole est très restreint. Quand on commence à s'élargir au niveau du parc, on peut imaginer que d'un côté il y a du pastoralisme, de l'autre côté il y a du maraîchage, de l'autre côté il y a autre chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut donner à toute la vie agricole en général une dynamique, un potentiel énorme, parce qu'on s'élargit sur un territoire qui est quand même beaucoup plus cohérent. Appui à la conception des bâtiments agricoles, filière bois, intégration paysagère, requalification des abords. Laboratoire pour l'expérimentation, donc le centre de compostage des déchets verts fumiers, ce sont des exemples, hein, effectivement. On parle de compostage des déchets verts en ville, mais on s'aperçoit aussi qu'il y a des filières avec les agriculteurs sur lesquels on peut faire du compostage beaucoup plus intéressant. Relais territorial des dispositifs de contractualisation. Alors là, on va être en cohérence avec toutes les mesures de Natura 2000, les mesures agri-environnementales. Vecteur de promotion du produit du terroir avec la marque Parc. C'est-à-dire que ceux qui auront une véritable production dans le parc, une production de qualité reconnue, pourront bénéficier de cette marque et valoriser leur produit. Quels sont les effets de la création d'un PNR ? Alors, exemple en matière de développement économique, outils de valorisation de savoir-faire traditionnel, matériaux locaux, filières spécifiques, outils d'animation, coordination des opérateurs touristiques autour de la conception et de la valorisation d'une offre touristique de qualité, puis de sa labellisation, label accueil du parc, gîte, hôtel, chambre d'hôte ou autre, chacun, c'est toujours pareil, chacun dans son environnement, peut-être n'est pas structuré pour avoir des hôtels, mais on peut les aider et aider certaines personnes à vivre dans leur village avec des chambres d'hôtes. Stimulateur de recherche de la qualité environnementale, diagnostic d'entreprise, économie d'énergie. Donc là aussi, hein, qualité environnementale, comment devenir haute qualité environnementale à travers l'aménagement de leur bâti ou autre. Un outil pour l'aménagement du territoire, donc au début, aujourd'hui on a un petit peu tout ce qu'on dit, mais on peut avoir aussi du télétravail pour l'ensemble du territoire. Télétravail, ça veut dire pouvoir travailler chez soi pour le compte d'une entreprise et éviter peut-être de se déplacer systématiquement. Répartition équilibrée sur le territoire de plusieurs régions du parc, nécessaire à l'information du public. Alors là aussi, nous sommes donc, comme on disait, sur trois vallées, la Sienne, le Loup et l'Estéron. Et il y aura des maisons de parc, d'entrée de parc, qui vont expliquer aux visiteurs, aux différents acteurs, vont expliquer qu'est-ce que c'est un parc, et quand ils vont rentrer dans le territoire, ils vont